Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale consacrée au futur de l'éducation. Face aux transformations récentes de nos sociétés que provoquent la mondialisation, le défi climatique et la révolution numérique, le monde et l'éducation se trouvent à un moment charnière, avec un pied dans le passé et un pied dans le futur. L'UNESCO vient de lancer un rapport invitant justement à repenser les futurs de l'éducation. Plutôt que d'un manuel, il s'agit d'un début de conversation sur les réformes scolaires à mener. L'UNESCO jette des bases et appelle à la mise en place d'un nouveau contrat social. Pour nous éclairer, Sobil Tawil, directeur futur de l'éducation et innovation à l'UNESCO. Alors, pourquoi un nouveau contrat social? Nous lui avons posé la question.
Un nouveau contrat social parce que actuellement on se trouve à un tournant. Un tournant en éducation marqué à la fois par des exclusions, des inégalités qui persistent en dépit des efforts sur les décennies et des inégalités qui étaient, comme on le sait, aggravées ces dernières années et demie. Donc, ça veut dire de revoir nos approches, nos méthodes, même les principes sur lesquels sont basées nos politiques éducatives. Quelque part, l'éducation et nos promesses de généraliser l'enseignement, assurer le droit à l'éducation pour tous, en dépit des progrès, n'est pas encore atteint. Et on se trouve à un tournant puisqu'on est face à des avenirs incertains, que ce soit par rapport à la crise climatique, que ce soit par rapport aux transformations technologiques et numériques qui offrent beaucoup d'opportunités, mais aussi un certain nombre de risques, que ce soit au niveau de la transformation du paysage de la gouvernance, la question de polarisation des sociétés, de recul de démocratie dans certains contextes. Donc, un nouveau contrat social parce que l'éducation se trouve à un tournant. Il faut repenser les méthodes, les principes, les approches afin de finalement pouvoir satisfaire aux promesses du droit à l'éducation pour tous, donc une promesse établie il y a bien longtemps, mais aussi parce qu'il faut transformer l'éducation, nos approches, nos méthodes face à ces futurs incertains.
Alors justement, vous parlez de transformation. Le rapport, lui, parle de régler des injustices et de transformer l'avenir. Pourriez-vous nous donner une illustration concrète de ce que ça pourrait vouloir dire?
Le rapport, en fait, parle de repenser ou reconfigurer en fait nos relations entre nous, donc les relations d'humain à humain, donc toutes les questions de cohésion sociale, de citoyenneté, mais aussi de repenser les relations humain-planète et environnement naturel, donc de ne plus être peut-être dans une position et dans une perspective où l'être humain est vu comme étant l'espèce qui domine en fait l'environnement. On doit voir nos interdépendances avec l'ensemble de systèmes de vie. Et ça passe aussi à travers les contenus des programmes. Un troisième aspect, c'est de repenser nos relations avec la technologie et les transformations technologiques. Et qu'est-ce qui, si finalement, et on le voit avec les développements dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui fait la spécificité finalement de l'être humain? Quelles sont nos capacités, nos qualités qui sont uniques, que ce soit au niveau de la conscience, d'une pensée morale, de la créativité, etc. Donc au niveau de l'éducation, il faut surtout, et je pense que c'est un message fort du rapport, des pédagogies de solidarité et de coopération. Et pourtant, dans la plupart des situations, l'éducation est plutôt axée sur la compétition, la concurrence, le classement, la sélection et la réussite finalement individuelle à travers l'éducation. Donc si on veut prendre en compte vraiment nos interdépendances, nos interconnexions, il nous faut revoir non seulement les contenus, mais aussi les pédagogies qui favorisent vraiment la coopération et des principes de solidarité.
Cela n'empêcherait pas pour autant de jauger l'évolution de l'individu, mais encouragerait à faire des travaux plus collectifs, c'est ça?
Des travaux plus collectifs, si on prend les technologies par exemple, et puisque c'est devenu central à toute discussion sur l'éducation depuis le Covid, Et depuis la disruption, en fait, des processus éducatifs et le déploiement de l'enseignement à distance. Donc, on parle beaucoup de la technologie et du numérique dans l'éducation comme un des points positifs étant la possibilité de personnaliser l'enseignement. Ce qui est très bien, personnaliser au niveau, aux attentes, au rythme des individus, de pouvoir tracer, en fait, des trajectoires d'apprentissage personnalisées, finalement plus efficaces. Mais il ne faut pas perdre pour autant de vue la dimension sociale et collectif. Et si on a appris quelque chose cette année, année et demie avec les fermetures des établissements scolaires, c'est que l'espace physique et social de l'école représente beaucoup plus que simplement l'étude sur la base des programmes. Donc il y a tout un apprentissage social, civique, socio-émotionnel qui ne peut se faire qu'en contact et en interaction avec les autres, avec les enseignants, avec le personnel enseignant, avec les autres élèves. Et donc, la technologie peut améliorer à travers la personnalisation, mais elle peut aussi contribuer. Il ne faut pas penser à l'accès au numérique comme étant un accès forcément individuel à la connectivité ou à un appareil connecté. On peut faire un travail de groupe autour d'un appareil connecté et un travail de groupe plus collaboratif qui nous met en relation avec d'autres groupes et puis qui peut contribuer justement un peu à cette dimension sociale, collective, civique de l'éducation qui est aussi importante que l'apprentissage individuel des programmes et des contenus des programmes.
Le rapport dit être le début d'une conversation sur la transformation de l'éducation et il est organisé par thématique, un peu des bribes de cette conversation. Pourriez-vous, par exemple, élucider et revenir un peu sur le thème « Sauvegarder et transformer l'école » ?
Tout à fait. Donc, l'école, comme on le connaît, est un produit de notre époque. Certains le qualifieraient du modèle issu de nos sociétés industrielles, le modèle de l'usine. Et il faut dire qu'au début de la crise du COVID, au début de l'année passée, certains dans le monde de la technologie en éducation, de la tech, disait que finalement, nous avons un choc massif des systèmes éducatifs qui va permettre une innovation vers un modèle différent et dont la technologie numérique permettrait. Donc, finalement, peut-être la fin du modèle scolaire, la fin de l'enseignement, l'individualisation et personnalisation de l'enseignement, le travail à distance. Mais assez rapidement, ce discours a évolué et on s'est rendu compte aussi de l'importance, comme on a dit, de l'espace physique et social de l'école. Donc, préserver, c'est préserver cet espace. On a compris que dans le cas des écoles, les écoles sont beaucoup plus que des sites d'éducation. C'est aussi la protection, c'est aussi un encadrement en termes de santé, c'est aussi les repas scolaires gratuits ou prix réduits. C'est aussi une protection pour les filles dans certains contextes. Dans le contexte de réfugiés, c'est au moins un espace de sécurité pour les enfants et pour les jeunes. Donc, il y a une fonction qui est au-delà de l'éducation. On a aussi compris que l'éducation, c'est plus que les études curriculaires et qu'il y a tout un ensemble d'aspects plutôt sociaux et civiques. Donc, tout ça est à préserver. L'espace de l'école, l'établissement éducatif doit être préservé pour ses fonctions-là. Mais elle doit également être transformée. Et effectivement, les critiques du modèle standardisé, homogénéisé, de classe plutôt homogène avec des approches pédagogiques plus homogènes, même les espaces architecturaux, les espaces des établissements se ressemblent. Et là, il y a un travail à faire à réimaginer les espaces, les emplois du temps, la façon d'organiser les élèves et les connaissances. Donc, un travail autant sur le curriculum, sur l'organisation des établissements, sur le lien entre les établissements éducatifs et d'autres espaces sociaux, culturels, éducatifs, au-delà. Donc, préserver et protéger certains aspects tout en transformant. Donc, il y a, comme le dit le rapport à un certain moment, si l'institution scolaire n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais il faut que cette institution et cet espace physique et social aussi se transforment. On ne va pas aller vers un monde où tout se fait individuellement et à distance, à travers la technologie.
Un monde virtuel, un monde méta.
Et un monde méta. Donc, on a toujours besoin d'enseignants et d'espaces physiques d'éducation, mais ils doivent se transformer. On n'est effectivement plus à la même époque. La façon d'aborder les connaissances, de les organiser, d'organiser les activités éducatives, de travailler en réseau, comme vous avez dit, d'élargir et d'ouvrir les établissements éducatifs aux autres espaces éducatifs dans la société, qu'ils soient des espaces socio-culturels. Donc ça, c'est un peu le protéger, maintenir, mais aussi transformer. En fait, le rapport pose trois questions pour ce débat ou cette conversation. Et trois questions simples. Qu'est-ce qu'on doit maintenir, préserver dans nos pratiques actuelles? Peut-être même renforcer. Dans certains cas, peut-être même protéger parce que c'est un peu un risque. Qu'est-ce qu'on doit maintenir donc? Mais aussi, qu'est-ce qui ne marche pas dans nos approches et qui doit être abandonné? On peut penser à certaines modalités d'évaluation. Et je pense, de nouveau, cette année et demie de COVID a donné quelques opportunités de repenser aussi l'évaluation à grande échelle, les examens, en fait. Et de repenser l'évaluation plus de façon continue, de façon formative. On était obligé de le faire cette année et demie simplement parce que les établissements étaient fermés. Donc, on s'est dit comment on fait passer des examens à grande échelle, comment on évalue à la fin de certains cycles. Mais ça a ouvert la possibilité de vraiment repenser l'évaluation et que l'évaluation soit moins une sanction, mais plus un appui à l'apprentissage. Il y a beaucoup d'espace à innover, en fait, dans le domaine de l'évaluation.
Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ce début de conversation?
Je pense qu'il y a, d'une part, certaines questions de fond. Si on dit qu'on est le moment présent, on est quelque part, on est prêt avec un pied dans le passé et un pied dans le futur, si on veut. Le pied dans le passé, on doit se poser la question, on parle de crise, de global learning crisis, le fait que tant d'enfants et de jeunes soit ne sont pas scolarisés, soit ont une scolarité incomplète, soit encore pire peut-être sont scolarisés mais n'acquièrent pas les compétences de fond. Il y a des questions fondamentales à poser sur ce modèle. Est-ce qu'on continue à pousser ce modèle? Il y a certains pays en Afrique subsaharienne qui ont des niveaux de scolarisation au niveau du primaire qui se situent à 50%. Il peut y avoir beaucoup d'explications d'instabilité, de conflits, etc. Mais on est quand même en 2020. Donc, 50 ans d'efforts au niveau des États, mais aussi au niveau international. Pourquoi on se retrouve dans cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas une question plus fondamentale à poser sur le modèle lui-même et sur l'approche? Plutôt que de continuer à pousser ce même modèle, cette même approche, en disant qu'il faut renforcer le financement. Certes, il faut renforcer le financement de l'éducation, que ce soit au niveau des budgets publics ou au niveau de l'aide internationale. Mais il y a peut-être quelque chose de plus fondamental dans le modèle. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est le pied dans le passé, si on veut. Maintenant, le pied dans le futur, c'est que jusqu'ici, le plus souvent, quand on parle de l'éducation et l'avenir, l'éducation et le futur, on pense en termes d'adaptation. Le monde est en train de changer et donc l'éducation doit s'adapter. Tous les discours sur les compétences du 21e siècle, etc. Le monde de travail change, le monde est en train de changer, les occupations, les professions de l'avenir sont inconnues et donc il faut mettre l'accent plus sur certains types de compétences, etc. pour s'adapter à ce monde. Et je pense ici, ce rapport, ce pied dans le futur, c'est de dire, c'est plus une question de s'adapter aux tendances en cours, qu'elles soient technologiques, sociales, que ce soit lié au monde du travail, mais plutôt de dire comment l'éducation peut façonner d'autres avenirs, des avenirs souhaités. The futures we want, c'est un peu dans ce sens-là. Pour ces deux raisons, il faut vraiment repenser nos approches et nos modèles, à la fois par rapport à ce passé et ces promesses pas tenues, je dirais, en termes de droit à l'éducation et droit à une éducation de base, de qualité pour tous. Et parce qu'il faut, on ne peut pas façonner nos futurs en poussant le même modèle ou en faisant des ajustements pour qu'on s'adapte aux transformations. Il faut pouvoir provoquer en fait les changements que nous voulons par rapport à ces trois dimensions de nouveau, nos relations avec les autres, notre relation en tant qu'espèce avec la planète et la nature et notre relation avec la technologie.
Nous arrivons à la fin de notre podcast. Merci de votre fidélité. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve dès le mois prochain. Même site, même heure, même fréquence.